10 TU.
RFI. RFI 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal de Simon Bourtembourg, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, au Tchad, le président Déby, désormais maréchal. Le fruit de ses services rendus à la nation et de ses nombreuses victoires militaires, peut-on lire dans la résolution, adoptée à 3 semaines des élections législatives et locales. Un reportage à suivre dans les rues de N'Djamena, où certains sont satisfaits alors que d'autres expriment des critiques après cette fastueuse maréchalisation. Au Gabon, 17 mois après, l'effervescence dans les villes du pays après la levée du couvre-feu. Les restrictions de déplacement la nuit avaient été instaurées après le coup d'État d'août 2023. Dans ce journal également, le bras de fer entre le M23 et Kinshasa. Les rebelles soutenus par le Rwanda accentuent la pression en lançant des offensives toujours plus au nord de la RDC. L'armée congolaise revendique de son côté la reprise de plusieurs localités. Dans ce contexte, hier, aux côtés de son homologue Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi a rappelé son opposition à des négociations directes avec le M23. Et puis notre dossier du jour en fin de journal, il sera consacré à la nouvelle garde des poètes camerounais qui s'organisent pour diffuser leur art. Cap, sabre et bâton, voilà Mahamat Idriss Déby affublé de tous les attributs de maréchal. La cérémonie officielle a eu lieu samedi après-midi dans la cour du palais présidentiel à N'Djamena. Après son père, le chef d'État tchadien revêt l'uniforme de la plus haute distinction du pays à seulement 40 ans et après 3 années passées au pouvoir. Au Tchad, cette maréchalisation suscite néanmoins des critiques. Le reportage à N'Djamena de Nadia Ben Mahfoud.
C'est avec une fierté raffirmée que j'adhère à la résolution du Conseil national de transition qui m'élève à la dignité de maréchal du Tchad.
Et c'est ainsi que Mahamat Idriss Déby Itno est célébré comme le deuxième maréchal du Tchad. Cape bleu et or sur les épaules, bâton étoilé à la main, casquette et lunettes de soleil, c'est avec tous les attributs d'un maréchal qu'il a quitté le tapis rouge déroulé pour l'occasion. Des images retranscrites en direct à la télévision tchadienne, cet entrepreneur de la capitale n'en a raté aucune miette. Abba Ali.
Simplement mérité et nous tous, c'est ce que nous avions dans le cœur et c'est ça qui a été décidé. Donc c'est un moment de bonheur et de joie pour tout le monde.
Mais cette maréchalisation ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux ou dans les rues de N'Djamena. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour critiquer. Noureddine.
Ça ne sert à rien. Le fait d'être maréchal, bon, c'est bon pour lui et pour certains, mais ça ne change pas le pays. Nous, on veut vraiment quelque chose qui va à l'intérêt de la population. Embellir ce pays-là et rendre la population heureuse.
Avec désormais un maréchal à la tête du Tchad, le pays reprend la campagne législative, provinciale et communale en cours. Les candidats ont une semaine pour convaincre les électeurs avant que les votes n'aient lieu le 29 décembre prochain. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Les premières nuits sans couvre-feu au Gabon. La fin de restrictions de déplacement nocturne qui auront donc duré 17 mois. À la suite du coup d'État du 30 août 2023 qui avait renversé le régime d'Ali Bongo, les militaires avait imposé un couvre-feu. Si les horaires ont été plusieurs fois réaménagés, jusqu'à la semaine dernière, toutes les villes du Gabon étaient désertes dès minuit. Face au mécontentement général et pour soutenir les établissements nocturnes, le gouvernement a donc levé ce couvre-feu. Et les Gabonais en ont bien profité ce week-end, comme l'a constaté Yves-Laurent Goma.
Derrière l'Assemblée nationale, coin par excellence pour boire et manger moins cher, notamment le poisson braisé, la nuit est déjà très avancée, mais tous les box affichent complet.
C'est la joie pour nous, on boit comme vous voyez là, nous sommes libres maintenant.
Je me sentais pas enchaîné, mais ça permet un peu de s'épargner.
On vous met la sauce sur le poisson, bien, hein? On met quoi?
Derrière son barbecue, Roger, alias Roger Poisson, ne chôme pas.
Il y avait vraiment souffert pendant le couvre-feu, on rentrait tôt et bon, ça ne donnait pas. On prie que comme on a retiré le couvre-feu, on aurait quand même la grâce.
Au quartier, lui, connu pour ses bars et restaurants, ses noctambules se délectent la musique d'un orchestre dans un club feutré.
Les Gabonais étaient fatigués de ne plus pouvoir rester tard le soir et profiter de la nuit, de sa douceur, de son charme. On réapprend à vivre, enfin.
Le patron qui préfère l'anonymat espère un nouveau départ pour les affaires.
C'est une bonne affaire pour l'instant parce que nous perdions à l'époque environ 45% de notre chiffre d'affaires chaque jour.
Le couvre-feu est certes levé, les Libreauxvillois demandent cependant aux militaires au pouvoir de maintenir la pression contre les braqueurs. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Au Gabon toujours, les avocats de la famille Bongo maintiennent leurs accusations de torture. Bien que contestées par la justice gabonaise, les conseils de Sylvia et Noureddine Bongo, époux et fils de l'ex-président gabonais, s'alarment des conditions de détention de leurs clients. La défense Bongo assure n'avoir pu visiter ses clients en prison que pour la première fois ce jeudi. L'ancienne première dame et son fils sont détenus à la prison centrale de Libreville. Nouveau week-end de violence dans le nord de la RDC. Des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. L'armée congolaise qui a lancé des contre-offensives sur l'axe Lubero avec l'appui des Walazendo. Des villages comme Kanyawimbi et Masamba ont été récupérés. Mais depuis plusieurs jours, le M23 étend donc sa zone d'action pour forcer la main de Kinshasa en vue de négociations directes. Il n'en est pas question, a réaffirmé Félix Tshisekedi. Après l'échec du premier sommet tripartite de Luanda, le président congolais persiste et signe lors de sa rencontre au palais présidentiel de Brazzaville avec son homologue Denis Sassou Nguesso. La sécurité dans la sous-région était évidemment au cœur des discussions entre les deux chefs d'État hier samedi. Le président Tshisekedi a cherché le soutien de son voisin dans la médiation menée par l'Angola. Correspondance à Brazzaville de Loïcia Martial.
Le président Félix Tshisekedi a été accueilli par le premier ministre Anatole Kouliné Makosso. C'est en milieu d'après-midi qu'il a rejoint son homologue Denis Sassou Nguesso au palais du plateau. Après le dîner, leur tête à tête a duré de longues heures. Interrogé sur les échanges, une source diplomatique a affirmé qu'ils ont été dominés par les questions de paix à l'est de la RDC et le renforcement des relations entre les deux pays. Un communiqué conjoint remis à la presse annonce que Félix Tshisekedi a présenté à son homologue l'état de la situation à l'est de la RDC ainsi que le processus de Luanda dont les récentes négociations ont avorté. Kinshasa refusant de discuter directement avec le groupe M23 qui sème la terreur dans cette zone. De son côté, le président Denis Sassou Nguesso a dit toujours, selon ce texte, soutenir les efforts déployés par le président angolais, João Lourenço, en vue de mettre un terme à cette crise. Enfin, il a exhorté les partis à poursuivre et privilégier les négociations en cours, qu'il qualifie, je cite, de moyens par excellence de résolution des conflits. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Emmanuel Macron a conclu en Éthiopie son déplacement dans la Corne de l'Afrique. Après Djibouti vendredi, le chef de l'État français s'est rendu hier à Addis Abeba où il s'est entretenu avec le premier ministre éthiopien. Le président français a appelé à déposer les armes au Soudan après un an et demi de guerre qui a ravagé le pays.
Nous avons aussi évoqué la situation au Soudan, conflit pour lequel la France avait réuni une conférence de premier plan en avril à Paris. Plus d'un an et demi après le début de la guerre civile, je veux ici redire que nous appelons les parties prenantes à déposer les armes et à tous les acteurs régionaux qui peuvent jouer un rôle de le faire de façon positive dans l'intérêt de la population qui a trop souffert. Le seul processus qui peut exister au Soudan, c'est celui du cessez-le-feu, de la négociation et de redonner toute sa place à la société civile qui a été si admirable dans la révolution qu'elle avait su conduire, dans le respect de celle-ci. Et il faut bien le dire, qui n'a cédé à aucune forme d'irresponsabilité qu'à peu près toutes les parties prenantes et belligérantes sur le terrain l'ont fait subir. Et je pense à la société civile soudanaise et en particulier à ces femmes remarquables et cette jeunesse remarquable qui avait mené la révolution et à laquelle nous devons beaucoup.
Emmanuel Macron, micro RFI de Pierre Firsion, et on reviendra dans une dizaine de minutes sur les déclarations du président français avec notre envoyé spécial à Addis Abeba. Sport et football avec la suite du deuxième tour aller des éliminatoires du CHAN 2025 et la phase finale qui se rapproche pour l'Angola, vainqueur au Lesotho 2-0. Un même résultat pour Madagascar en déplacement en Eswatini. Ça reste ouvert pour les deux autres matchs disputés hier, 0-0 entre la Guinée équatoriale et le Congo Brazzaville et un but partout à Abidjan entre le Tchad et la RDC. Les Léopards A' ont ouvert le score en première période mais n'ont tenu leur avantage que 7 minutes. De quoi frustrer le sélectionneur congolais Otis Ngoma Kondi.
On est bien entré dans le match déjà. On a marqué rapidement. Je crois que ayant eu la position du ballon, on a joué un peu trop facile. Il y a eu quand même un certain manque de respect de l'adversaire parce que les gars croyaient qu'ils allaient beaucoup marquer. Donc ce qui fait que quand vous jouez avec la baballe, et forcément, il y a des erreurs et puis ça ne pardonne pas. On les a donné un but qu'on pouvait éviter. Le résultat ne nous satisfait pas tellement, mais quand vous ne pouvez pas gagner un match, il faut savoir qu'un match nul pourrait être raisonnable. On a eu des imperfections dans certaines zones du terrain où en rentrant chez nous, on doit perfectionner afin qu'on puisse leur poser plus des problèmes qu'on les a posés aujourd'hui et qu'on puisse marquer un but de plus que l'adversaire.
Otis Ngoma Kondi au micro RFI de Mo Lamine Sissavané. À présent, notre dossier du jour consacré ce matin à la jeune garde de poètes au Cameroun. Une nouvelle scène poétique faite d'artistes francophones et anglophones. Une dizaine d'entre eux se sont regroupés dans le collectif Night Voice, les voix de la nuit en français. Pour faire connaître leur art, ces poètes donnent régulièrement des spectacles dans les cafés de la capitale camerounaise. Richard Onanena a assisté à une de leurs représentations à Yaoundé.
Dans sa robe traditionnelle que les parures qui ornent son cou sublime, Latifa raconte sa douleur.
Mon âme crie, mon cœur pleure. Je ne peux pas être celle dont ma mère a de temps.
C'est un poème qu'elle a écrit pour dénoncer le tort que les religions peuvent causer dans les familles. C'est aussi ça, la nouvelle scène poétique camerounaise des jeunes bilingues qui écrivent pour changer les choses.
Oui, c'est mon conflit intérieur et c'est une manière pour moi de dénoncer et de m'accepter aussi. Ce n'est pas juste les musulmans qui protestent, il y a aussi les chrétiens, mais plus les religieux.
Même si la recette n'attire pas les foules, Billy et Jean-Marie sont ravis de ces découvertes.
Je pense que la poésie a disparu de nos habitudes depuis un certain temps. Et c'est ce type de soirée qui nous rappelle qu'elle est existante.
C'est une magnifique soirée. Je me rends compte que des poètes au Cameroun, il y en a vraiment, mais il faudrait aller les chercher. Il faudrait leur donner la force, les encourager à pouvoir mieux s'exercer.
Les poètes qui se regroupent dans le collectif Night Voices, les voix de la nuit, se retrouvent tous les mois, parfois devant une centaine d'amateurs de poésie, pour partager leurs textes. Richard Onanena, Yaoundé. RFI.
Et cette nouvelle vague de poètes est soutenue par ses pairs. En premier, Valérie Chiffort, qui est auteur du recueil Remember Tomorrow, un recueil d'une cinquantaine de poèmes écrits en français et en anglais où il dépeint à portée crue des réalités camerounaises. Et pour soutenir les jeunes générations d'artistes, il organise des événements pour regrouper les amoureux de la poésie camerounaise. Valérie Chiffort.
On l'a un peu oublié pendant un moment, mais il y a une vraie renaissance avec notamment des jeunes camerounais qui sont d'expression anglophone ou francophone. Et la particularité de Night Voices, qui est la plateforme dont on a commencé il y a 5 ans de retour au Cameroun, c'est vraiment pousser cette dualité linguistique là chez les Camerounais parce qu'on est quand même un pays bilingue. C'est intéressant d'avoir des poètes francophones qui écrivent en anglais, d'avoir des poètes anglophones qui écrivent et qui performent en français. Notre principe, c'est « learn, earn, return ». C'est vraiment apprendre, gagner en expérience et puis redonner, former d'autres personnes, qu'il y ait plusieurs scènes. Le but pour nous, non seulement c'est de faire un festival l'année prochaine, 2025, faire un festival sur le Cameroun, mais aussi de faire voyager des poètes sur le continent, parce que je pense que aller en France, c'est bien, tout ça en Europe. Et donc, pour nous, le but, c'est vraiment pousser l'art poétique et de réintroduire le poète camerounais dans sa dualité, dans sa splendeur.
Le poète Valérie Chiffort. Place à présent à la suite des RFI Matin. Merci de rester à l'écoute de la Radio du Monde.